France Culture.
On doit être habité par son époque, être habité surtout par les souffrances de l'époque, avoir la divination de l'humaine condition. Et à partir de là, ce qu'on va produire sera de toute manière imprégné par cela. Et c'est en cela que l'art conscient est très très intéressant. Il est inévitable, il n'y a pas d'art sans conscience.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Des vies étudiantes, apprenantes, aujourd'hui dans votre book club, passant par la Côte d'Ivoire, les Comores, l'Afrique du Sud, la France. D'intenses parcours comptés par deux livres que nous réunissons autour de notre table au vu de leur résonance et aussi parce que leurs autrices, Véronique Tadjo et Toufate Moutaré, sont invitées du Salon du Livre Africain qui se tient à Paris ces prochains jours. Dans un cas, le roman met en scène des personnages féminins luttant au péril de leur vie en pleine crise ivoirienne pour un accès au savoir. Dans l'autre, le récit campe les étudiants universitaires comme la raison de l'exil dont on exige qu'il soit justifié ou récompensé par la réussite. Dans les deux cas, il est question d'émancipation, de survie, peut-être au sens de vivre plus. Les deux autrices sont nos invitées. Ensuite, et comme chaque semaine, nous parlerons littérature jeunesse avec Raphaël Bott. Aujourd'hui, elle évoque l'adaptation d'un roman pour ados en bande dessinée, automne 1920, Alabama, des adultes et des enfants. On est ensemble pour une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Véronique Tadjo.
Bonjour Marie.
Votre dernier livre, Je remercie la nuit, a paru aux éditions Mémoires d'Encrier. On est absolument ravis de vous recevoir à la table du Book Club de France Culture. Soyez la bienvenue.
Merci beaucoup.
Et bonjour Toufate Moutaré.
Bonjour Marie.
Votre livre « Chose qui arrive », c'est le titre de ce récit qui a apparu, lui, aux éditions Bayard. Soyez la bienvenue, on est ravis de vous recevoir ici au Book Club. Je le disais, le SLAP, le Salon du Livre Africain de Paris, se tient du 21 au 22 mars prochain. 400 autoristes, des tables rondes, des conférences, des signatures. On espère que vous serez nombreux et nombreux auditeurs et auditrices à aller rendre visite aux auteurs et aux autrices invités par ce salon. Ici au Book Club, on commence toujours par faire connaissance avec nos invités en tant que ce sont des lectrices et des lecteurs, ou en tout cas en tant qu'ils ont un rapport avec le récit, la langue, les mots, les livres, mais pas que, si on en croit ce que vous racontez souvent autour de votre parcours et de votre rapport au langage. Peut-être je peux m'appuyer sur le titre que vous avez choisi pour votre récit, Chose qui arrive, et qui d'emblée fait référence à un très beau livre de Sei Shonagon qui énumère comme ça à partir de ces choses une sorte de vision du monde très ancien. Est-ce que ça nous renseigne sur la lectrice que vous êtes ?
Alors en partie, parce qu'il y a un côté très contemplatif chez Sei Shonagon et un côté assez privilégié. C'est une femme qui était assez privilégiée, c'était une bourgeoise dans la cité impériale et donc elle observait ce qui se passait et elle l'observait avec beaucoup d'humilité. Donc c'est ça qui m'a touchée chez elle, c'est que je n'ai pas eu la sensation en la lisant qu'elle surplombait ce qu'elle était en train d'observer, mais elle rentrait dans la vie des gens et puis elle osait dire son point de vue sur ce qu'elle voyait en admettant ses biais. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Notes de chevet, ouais.
Qu'est-ce qui pourrait nous renseigner alors sur votre vie de lectrice ou peut-être sur votre vie en rapport avec les mots ? C'est une histoire qui commence comment pour vous, Toufate Moutaré ?
Alors c'est une histoire qui commence avec des romans d'amour. Je pense beaucoup à ma mère en disant cela, qui était une grande lectrice de Barbara Cartland, l'une des reines de la romance. Et que je voyais lire, que j'interrompais pendant sa lecture. On avait vraiment un rapport très charnel à la lecture, parce que j'allais lui faire des câlins, puis elle était en train de lire, elle me disait « non mais laisse-moi tranquille », et puis je lui demandais « mais quand est-ce que t'auras fini ? Il te reste combien de pages ?» Et donc elle me montrait la quantité de pages qui restait, l'épaisseur qui restait. Donc j'ai un rapport très corps à corps avec les livres dans ce sens-là. Et puis ensuite, en grandissant, j'ai de plus en plus apprécié les livres on va dire qui parle de la vie intérieure, mais vraiment de la vie du corps, donc qui font comme si les mots c'était des parties de corps qui s'attachaient les unes aux autres. Celui que je suis en train de lire actuellement, par exemple, c'est un livre de Karim Khatan alors il faut que je retrouve le titre. Mais alors, vous voyez, des fois, aujourd'hui,
Hortus Conclusus, qui est son dernier recueil.
Pas celui-là, c'est un roman.
Ah, alors je ne saurais pas dire le titre.
Sorti chez Elizade. Ah là là, ça ne rentre pas.
En tout cas, vous avez prononcé son nom déjà.
Voilà. Voilà, en tout cas l'idée, c'est que il parle du linceul, il parle de cette façon qu'on a d'enterrer les corps quand on est dans une zone de guerre, de la façon dont la vie continue quand même Et j'ai ce rapport-là parce que je pense qu'aux Comores, on a beaucoup ce rapport au fait que la vie continue. C'est un pays qui a connu beaucoup de coups
après
d'État,
après la mort, vous voulez dire.
De choses. Voilà, après la mort, après
pendant
le danger,
la guerre.
Pendant la guerre, pendant le sursis, en fait. Donc j'aime bien ce rapport à la vie quand elle est en sursis. Et d'ailleurs, je suis très heureuse d'être avec Véronique Tadjo aujourd'hui, puisqu'elle a écrit En compagnie des hommes, que j'ai lu avec énormément de plaisir, qui parle du virus Ebola et de tout ce qu'il y a autour, toute la constellation de gens, de vie autour de cette maladie, mais avec beaucoup de tendresse. Et donc, j'aime les livres qui parlent de ce qui est grave avec de la tendresse, pas nécessairement avec de la gravité, du sensationnel, mais vraiment qui vont chercher où est la tendresse, où est la douceur.
L'Éden à l'aube, le livre de Karine
Caton. L'Éden à l'aube, ah merci.
Ça veut dire qu'il y avait des livres chez vous, puisque vous mentionnez votre mère en train de lire des romans d'amour. C'est des objets qui entouraient, qui peuplaient votre enfance assez naturellement?
Oui, absolument. Il y avait énormément de livres. Mes parents ont toujours tenu à ce qu'on ait toujours des livres dans les mains. Et j'en suis arrivée, j'en parle aussi dans Choses qui arrivent, j'en suis arrivée à écrire dans les livres que j'achète en librairie, ce qui fait que j'ai un peu de mal à les prêter. En tout cas, je dois regarder d'abord ce que j'ai écrit, voir si ce n'est pas trop compromettant avant de les prêter.
Est-ce que ça peut circuler sans moi ?
Exactement.
D'ailleurs, vous faites mention de ce que vous écrivez à propos de la lecture dans votre livre, qui est donc plutôt du côté du récit, contrairement au livre de Véronique Tadjo. Mais dans vos deux livres, il est question de la lecture, il est question du lieu de la bibliothèque, il est question de comment on trouve refuge, suspens dans la lecture. C'est aussi la place que ça occupe dans votre vie aujourd'hui.
Oui, alors les bibliothèques, j'ai une histoire assez en dents de scie avec les bibliothèques. Il y a une époque où j'y allais beaucoup, puis une époque où je les ai un peu évitées parce que c'était la bibliothèque de l'université, et l'université c'était un environnement qui était stressant pour moi, et donc je me suis rabattue vers les librairies. Donc les librairies aussi sont devenues un refuge. Pas toujours au grand plaisir des libraires, mais voilà, c'était devenu un refuge aussi.
Est-ce que vous feuilletiez
Je feuilletais, ouais. Je me croyais un peu chez moi.
Et sans forcément acheter en sortant.
Exactement.
Mais ça fait partie de l'accueil des librairies, normalement.
Voilà, donc ça dépendait des libraires. Certains étaient contents, d'autres moins. Mais oui, il y a quelque chose de différent, puisqu'en librairie, les livres sont neufs, on peut les acheter, on peut les posséder. Alors qu'à la bibliothèque, il faut apprendre à s'en séparer à un moment donné, ou alors les lire sur place, mais à un moment, il faut les rendre. Et voilà, selon les périodes de ma vie personnelle, il y a des moments où j'ai eu plus envie de posséder,
garder les livres.
Et puis, d'autres moments, je n'avais pas de mal à m'en séparer. Mais la dominante, c'est vraiment dans l'idée de posséder des livres, d'avoir une barrière de livres autour de moi qui me sert de cocon.
Ouais. Ça marche ?
Oui, ça fonctionne bien.
Véronique Tadjo, ça commence comment pour vous l'histoire avec les livres, mais plutôt du côté de vous en tant que lectrice ?
Oui, bien, ça commence en Côte d'Ivoire, puisque je suis arrivée toute bébé en Côte d'Ivoire et que voilà, j'ai passé toute mon enfance, j'ai grandi là-bas. Et donc, en fait, ça passe aussi par ma mère. C'est intéressant c'est plutôt elle qui m'appelait et qui lisait. Et donc mon plus fort souvenir c'est Le Petit Prince. Et d'ailleurs c'est un livre qui m'a énormément marqué dans le sens que il m'a aussi permis de devenir illustratrice. Parce que
vous écrivez aussi pour la jeunesse.
Oui, non, mais parce que dessine-moi un mouton, je veux dire, c'est génial, surtout quand on regarde le mouton qui est un peu bancal. Donc je me suis dit, c'est possible, voilà, c'est le genre de chose qui est tout à fait possible. Mais j'ai aussi été énormément marquée par la littérature orale, parce que le conte, très 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 présent.
Ça prenait quoi comme forme dans votre enfance ?
Mais il y en avait partout, il y en avait partout, aussi bien à la radio que il y avait parfois
très présente la radio d'ailleurs dans votre roman.
Exactement, ouais. La radio, et c'était fascinant parce que on était devant la radio et puis il y avait une petite lumière verte là et puis on avait l'impression qu'il y avait des gens qui étaient cachés à l'intérieur et que voilà, c'était en fait oui, il y a des gens à l'intérieur
on en est la preuve aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Mais c'était assez fascinant. Donc c'est un mélange.
Donc à la fois vraiment. À la radio, mais aussi dans votre entourage,
absolument.
On racontait des histoires.
Oui, on racontait des histoires. Le conte était quelque chose de... Je veux dire, ça se discutait même pas. C'était voilà, ça faisait partie de...
Mais c'était sans préambule, attention, je vais te raconter une histoire, même pas. Ça venait...
Bah, peut-être que les gens aimaient raconter, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a toujours énormément marquée parce que... il y a eu tout un travail, par exemple, de transcription des contes. Et donc, on était très, très conscients de tout ce travail-là. Donc, du coup, ça nous permettait de découvrir, voilà, pas mal de...
Il y avait quoi dans ces contes, Véronica Jo, vous vous souvenez?
Il y avait tout l'imaginaire, africain, l'imaginaire en Côte d'Ivoire. Et suivant les peuples, les régions, ça changeait. Bon, moi, j'ai beaucoup entendu ce qui se disait du côté de mon père, mm-hmm. qui est plutôt en allant vers le Ghana, mm-hmm. de ce côté-là. Et voilà, c'était vraiment voilà, il y avait des spectacles. Les premiers écrivains se sont énormément inspirés de la tradition orale ou de la littérature orale, comme on dit aujourd'hui. Après, quand j'ai été à l'université, justement, comme j'étais dans le département d'anglais, la littérature anglophone m'a énormément marquée aussi.
Donc, oui, alors qu'est-ce qui vous a attrapé dans la littérature anglophone à ce moment-là?
Aussi bien noire américaine que africaine aussi.
À laquelle vous allez consacrer d'ailleurs un travail de recherche.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu toutes ces cultures. Culture, c'est une littérature qui m'ont nourri en tant que lectrice.
Vous vous êtes mise à lire quoi avec passion à ce moment-là de votre parcours? On peut s'y attarder parce que la question de la vie étudiante et de qu'est-ce qui se passe dans le parcours, en l'occurrence, de personnages de jeunes femmes dans vos livres aujourd'hui, c'est au cœur de la conversation qu'on va avoir. C'est quoi une jeune femme en train de se former intellectuellement? C'est quoi une jeune femme qui aspire au savoir? C'est quoi une jeune femme qui découvre le monde aussi par l'université?
En fait, j'ai commencé par la poésie. J'ai commencé par la poésie parce que à travers l'enseignement, on nous a bien parlé du mouvement de la négritude. Et donc tous les Senghor, Césaire, Fanon, on les a lus et j'ai été passionnée par le fait qu'ils arrivaient à faire de la poésie, mais une poésie engagée, c'est-à-dire, mais qui restait de la poésie. Ça, je trouve que c'était formidable. Et aussi, ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait avoir une grande ambition, un espoir par rapport à...
Là où vous aviez grandi.
Ouais. Et quand même continuer à faire de la littérature. C'était très important. Hein. Mais en même temps, j'ai eu accès à Prévert, Rimbaud, Baudelaire. Donc tout ça, voilà, c'était un gros mélange qui m'a vraiment... Alors j'ai commencé par la poésie, sincèrement.
Et aujourd'hui, à votre bibliothèque, c'est aussi ce mélange-là, Véronique Tadjo. On retrouve
absolument
la base, la poésie, puis ensuite plein de ramifications.
Absolument, roman, mais beaucoup aussi de livres qui m'apprennent des choses. Par exemple, dès que je m'intéresse à un sujet, il y a les livres qui vont autour, quoi. Et là, ça peut être du roman, mais ça peut être aussi des livres de recherche.
Et alors, par exemple, pour Je remercie la nuit, vous avez lu de la documentation. La période que vous traitez, elle est finalement assez récente. On est dans la crise de 2010-2011. Est-ce que vous avez lu pour écrire ce roman?
Oh là là, j'ai surtout fait énormément de recherche, oui, parce que je ne pouvais pas me permettre de dire quelque chose qui n'était pas, entre guillemets, vrai. Bien sûr, il y a des personnages qui circulent, mais en fond, on a cette crise politique. Et donc, j'avais besoin vraiment d'avoir... quand il y avait une date, il fallait que ce soit la bonne date. Quand il y avait des noms, il fallait que ce soit les bons noms. Donc, ça m'a pris pas mal de travail. Aussi, il fallait que je lise ce qui avait été écrit sur la crise... à cette époque. Et le plus difficile, c'est que c'est quelque chose qui est mouvant. C'est-à-dire, ce n'est pas une crise qui a un point final. C'est une crise qui continue jusqu'aujourd'hui, puisqu'on en sent encore les effets, les retombées. Donc, c'est assez fascinant. Je me souviens très bien que, par exemple, au moment où Laurent Gbagbo a été libéré parce qu'il avait été à la Haye emprisonné pendant 10 ans, accusé de crimes contre l'humanité. Quand il est sorti, j'étais en train d'écrire. Je me dis, mais...
Qu'est-ce que je vais faire?
Ça change tout. Donc, ça, pendant un moment, j'étais dans le doute, un peu perturbée. Et puis après, je me suis rendu compte que non, ça ne changeait rien de ce que je voulais dire. Et donc, j'ai continué tranquille. Mon récit.
Vous diriez que vous cherchez quoi au-delà de la dimension documentaire que vous venez d'évoquer, Véronique Tadjo, mais profondément pour la personne que vous êtes dans les livres que vous lisez?
Ben justement, c'est exactement ce qui m'a inspirée. C'est-à-dire, c'est par la littérature, on arrive à comprendre comment les hommes, les femmes sont pris dans une histoire, parfois une petite histoire, parfois une beaucoup plus grande histoire. Et voilà, c'est important, que ce soit un génocide, que ce soit une crise soi-disant post-électorale, qui est plus une guerre civile qu'autre chose. Mais où sont les hommes? Où sont les êtres humains? Et donc, la littérature permet d'avoir une lumière sur ce qui nous concerne le plus, c'est-à-dire nous, en tant qu'êtres humains, comment est-ce qu'on évolue dans ces grosses crises-là, comment on s'en sort, comment on se reconstruit. Voilà, c'est
comment on
c'est
aime
ça.
Aussi, comment on aime,
comment on pleure,
comment on peint, voilà. Comment on danse.
Voilà, exactement.
Ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, Toufat Moutaré, sur l'idée de livre qui vous permet d'aller vers l'intérieur, ou que quelque chose vous permette, une forme d'intimité avec le monde. Même question, vous cherchez quoi, vous, à titre intime et personnel, dans les livres que vous ouvrez?
C'est une très bonne question, parce que parfois je peux passer une longue période sans lire, en tout cas sans lire de façon significative un roman, parce que je ne trouve pas ce que je cherche, justement.
Et, en fait, et que vous ne savez peut-être pas que vous cherchez.
Et que je ne sais pas que je cherche, exactement. Parfois on trouve ce qu'on ne cherche pas non plus, mais je pense que ce que je cherche quand j'ouvre un livre, comment je vais dire ça ? C'est le cœur. Voilà, où sont les hommes? C'est ce que Véronique disait. Et en fait, où sont les hommes dans le sens où est la vie? Où est la vie intérieure? Où est la manière dont les gens dans le livre vivent ce qui se passe? Et en général, quand je m'ennuie en lisant un livre, même quand c'est un très très bon livre, même quand c'est très très bien écrit, je m'ennuie quand je sens que l'auteur cherche à m'impressionner ou à m'intéresser à la façon dont il écrit les choses. Et parfois, moi-même, quand j'écris, je me dis, bon, peut-être que j'ai pas mis assez de forme, peut-être que ce n'est pas assez spectaculaire. Mais en fait, finalement, je ne cherche pas le spectaculaire. Je cherche vraiment l'émerveillement. Je cherche la naïveté, voilà. Je pense que c'est ça. Je cherche la naïveté. Je cherche à retrouver l'innocence, la naïveté que le monde s'évertue à nous enlever en permanence parce que c'est le monde, parce que c'est comme ça que les règles du genre ont été établies. Et en fait, pour moi, un livre, la littérature en soi, et puis un livre en particulier, c'est vraiment un moyen pour moi de retrouver en fait cette naïveté-là, de me
mais
dire...
Mais qu'à avoir avec l'enfance là. Ou pas du tout?
Pas forcément.
Ce serait, pour comprendre bien le terme que vous utilisez de naïveté, ce serait un peu comme une forme d'innocence aussi, mais au sens presque spirituel du terme.
Peut-être pas dans le sens virginal du terme, mais dans le sens vraiment l'émerveillement malgré tout. Voilà, l'émerveillement malgré ce qui se passe autour. On est en guerre et puis il y a un papillon qui m'a émerveillée parce que je l'ai vu. Et en fait, tout le monde peut se moquer de moi autour.
Quand l'écriture le voit, vous, alors ça vous attrape.
Voilà, quand l'écriture le met en avant, quand l'écriture le fait émerger. Je pense à un livre qui m'a émue aux larmes, qui s'appelle Circé. Donc c'est de Madeleine Miller. Madeleine Miller reprend un peu les grandes histoires de la mythologie grecque. Et elle les raconte différemment. Donc elle raconte l'histoire de Circé, la sorcière connue pour avoir transformé Ulysse et ses compagnons en cochons. Et elle raconte l'histoire selon le point de vue de Circé. Et c'est ce qui est beau dans cette histoire, c'est que elle ose aller jusqu'à la description des dieux de l'Olympe. Et ça n'a pas l'air, ce n'est pas de la fantaisie. C'est vraiment du roman. C'est vraiment du roman dans le sens classique du terme, pas dans le sens catégorisé fantasy. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'elle invente quelque chose. On a l'impression que ce qu'elle raconte là, que Hélios, on peut le croiser dans la rue.
C'est l'Olympe, quoi. C'est, on est là, voilà. On est sur l'Olympe.
Exactement. Mmh. Et pour moi, la fantaisie, c'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on arrive. C'est un peu comme ce que fait Ursula Le Guin, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire en sorte que ce que nous, on va percevoir comme étant étrange, surnaturel, et donc on va tout de suite le classifier quelque part et ne plus y penser ou le réserver à une catégorie de personnes. Bah, ces femmes-là, elles vont l'intégrer dans la vie quotidienne et elles vont nous forcer à le regarder. Et elles vont nous dire, mais non, ce n'est pas du tout autre chose. C'est exactement ce que vous voyez chaque jour. Mmh. Et en fait, ce livre-là m'a émue. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, Circé est en train de manipuler des fleurs. Donc ce sont des fleurs qui permettent de transformer quelqu'un en sa nature véritable. Et en fait, elle se retrouve elle-même à découvrir sa nature véritable aussi. Mmh. Et elle se retrouve à transformer, par exemple, sa cousine Scylla en un tourbillon marin. Et c'est très beau la façon dont elle le décrit parce que on s'identifie à elle. On sent la raison pour laquelle elle l'a fait. On sent les petits penchants un peu humains, un peu pas très glorieux.
On est au cœur, quoi,
pour lesquels elle les fait. Voilà. On est au cœur du récit. Et on s'émerveille avec elle de petits riens.
Le prétexte à votre réunion, c'est à la fois les échos, on va l'entendre, de vos deux livres, mais c'est aussi ce salon du livre africain à Paris. Est-ce que ça vous parle, ces mots-là ? Le livre africain, Toufat Mountare ?
Alors...
Parce qu'à vous entendre quand même, c'est très... On entend à quel point la constellation de votre univers littéraire, il est mondial, il est universel, il est total. Est-ce que pour autant, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous interpelle ?
Alors, je dirais peut-être pas livre africain, je dirais peut-être plutôt... Enfin, peut-être que je l'aurais appelé, je fais pas partie du comité d'organisation.
Non, c'est pas là, c'est plus...
Je l'aurais peut-être appelé, oui, à un événement qui fait parler les auteurs, les bouches venues du continent africain. Mmh. Ce sont des récits...
Et que ça fait sens d'être ensemble.
Voilà, peut-être... Voilà, ça fait sens d'être ensemble parce que on a l'illusion qu'on a toujours été ensemble, mais ce n'est pas vrai. L'Afrique du Nord a toujours été ensemble avec le bassin méditerranéen. Mmh. L'autre partie du continent a été peut-être en contact avec l'Asie, l'Amérique latine, avant d'être en contact avec l'Europe. Donc il y a eu des mélanges complètement disparates. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'on
l'idée
est réellement
d'un continent
ensemble.
Littéraire. Mmh.
Voilà, c'est on est en train de le construire.
Véronique Nadjo.
Oui, en fait, je pense que ce sont des écrivains qui s'intéressent à l'Afrique ou qui sont inspirés par l'Afrique. Mmh. Et donc, je veux dire, je lis toutes sortes de d'autres écrivains venant d'ailleurs. Ce n'est pas une fermeture. C'est vraiment l'idée que on a à cœur. Voilà ce continent et que cette inspiration nous vient de là, mais évidemment elle est tout à fait, elle se disperse dans le monde entier. Donc
et c'est fertile de pouvoir échanger justement à partir de ce continent là
oui, je pense, parce
et
que comme ça, comme dit Moufta, on se comprend mieux, on se lit et on comprend beaucoup plus de choses par rapport à nos différences, nos similitudes. Voilà, si je regarde dans ce que j'ai essayé de faire dans Je remercie la nuit, c'est de mettre deux pays qui semblent n'avoir rien en commun, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.
Ouais.
L'un est francophone, l'autre est anglophone, mais l'histoire est tout à fait différente également. Mais on apprend comme ça à se connaître, parce que de toute façon, on a besoin sur ce continent de lieux de dialogue, d'avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes. Mm-hmm.
On va écouter un disque de Juste Chani, une chanson de Juste Chani qui s'appelle Tempête. Et juste après ça, on parlera de vos deux livres. Dans cette chanson, elle dit « Je fais ce que je peux pour vivre dans l'époque. Je comprends toujours pas les codes. »
Aïe, 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 a de ralentir son BPM avec mes sons. Y'a des tensions, je les chasse en chanson. Je connais mes démons, donc je fais attention. Ma foi qui me porte, la lune à ma portée. Mon but c'est d'apporter quelques notes pour te border. Je vis de mes rimes, est-ce que je le mérite? Ça, ça me travaille. Un peu de talent, un peu de chance, beaucoup de travail. Distension, mes pensées en dislocation. Parfois du mal à connecter, comme si je suis d'une autre dimension. Mon corps est ici, mon esprit est ailleurs. J'ai la peau qui brûle, en dessous de mon tailleur. Les mains filent dans ma tête en tournoyant. Je veux pas que la tempête devienne un ouragan. Je croyais que rien ne pouvait attendre en diamant. Thérapie AZERTY, la folie je l'investis. Je me saigne et j'investis dans ce à quoi je me destine. Des moments inestimables avec la mif, avec les besties. Je navigue à travers les stigmates à la recherche de ma liberté.
Liberté, liberté.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux livres du déplacement, de l'adversité et de l'endurance. Aujourd'hui dans votre Book Club, deux livres dont les autrices sont les invitées du Salon du Livre Africain de Paris qui se tient ces prochains jours. Des jeunes femmes qui veulent étudier, vivre et aimer coûte que coûte, au prix parfois de leur sécurité ou de leur clandestinité, doivent quitter leur pays d'origine. Pour votre roman, Véronique Tadjo, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Pour votre récit, Toufate Mountaré, des Comores. Dans votre roman, je remercie la nuit, Flora, atterri à Johannesburg, fuyant les conflits consécutifs aux élections de 2010-2011, guerre civile qui ne dit pas son nom. Dans votre récit, chose qui arrive, c'est à Paris que vous atterrissez, une ville qui peine à tenir ses promesses, des livres qui vont dialoguer autour de la table du Book Club. Je disais tout à l'heure, il y a aussi quelque chose de très important dont je remercie la nuit, Véronique Tadjo, qui est la peinture de la jeunesse, la peinture d'une amitié aussi entre ces deux jeunes femmes, Flora et Yasmina, qui peut-être avant ou en même temps que de vouloir étudier, malgré la violence qui sévit en Côte d'Ivoire, sont amies, sont liées, veulent vivre cette amitié qui va être déchirée, recomposée, etc. Mais est-ce que ça vous tenait à cœur d'écrire ce type de lien à cet âge-là particulier de la vie ?
Oui, je pense que l'adolescence est absolument... Enfin, elles sont un petit peu plus âgées quand même.
Presque jeune adulte, ouais.
Presque jeune adulte, c'est très important parce que c'est tout ce qui va nous former après, tout ce qu'on va avoir par la suite, tout ce qu'on va... tout ce dont on va hériter. Donc cette amitié est très importante, d'autant plus que Flora vient d'Abidjan, c'est une vraie Abidjanaise, tandis que Yasmina vient du grand nord de la Côte d'Ivoire. Et y a déjà ce contraste, mais il y a cette amitié, donc c'est quelque chose de très beau et qui va être détruit par les événements. Alors que les jeunes filles, en fin de compte, sont totalement apolitiques. Elles veulent faire leurs études, c'est tout ce qui les intéresse.
Elles se méfient même de prendre position.
Exactement, ouais. Exactement. Mais après, elles sont forcées d'être impliquées dans ce qui se passe. Et j'ai voulu montrer aussi comment cette jeunesse, ces espoirs peuvent être détruits quand toute cette violence-là s'engouffre et le campus devient soudain un endroit violent, un endroit dangereux. Et le fait que ce soit des jeunes étudiantes a quelque chose d'encore plus... C'est encore plus émouvant, je trouve, parce que déjà l'accès, comme on le sait, à l'éducation a été très très lent pour les filles. Et donc ces jeunes filles qui arrivent jusqu'au niveau de l'université,
vraiment, leur destin, leur caractère, leur mémoire,
c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, juste si près du but, elles voient tout tout s'éclater. Voilà, c'est exactement ça.
Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, leur destin, d'ailleurs le mot destin apparaît assez rapidement, mais est pris dans la grande histoire, dans l'histoire collective, et ce à quoi elles aspiraient est fauché, en tout cas pour une part, comme élan, par la violence qui sévit dans le pays à ce moment-là. Je parlais de la présence de la radio. Ça scande les chapitres. À un moment donné, on est comme au rythme des nouvelles qui arrivent. Et on sent bien qu'en fait, il n'y a pas vraiment de vie à l'abri. Ça n'existe pas d'avoir une vie à l'abri. En fait, les nouvelles viennent faire battre le rythme de la vie de tout le monde.
Exactement, la radio, les informations,
la presse, les réseaux sociaux,
la télévision, les réseaux sociaux, les journaux, tout vient bombarder la vie de ces de jeunes étudiantes. Mais je voulais montrer aussi parfois combien c'est difficile d'étudier dans une université comme ça en Côte d'Ivoire, quand on voit bien comment elles n'ont pas d'argent, elles sont obligées de, elles mangent très peu, elles ont des conditions d'études vraiment très 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 difficiles. Donc il y a ça aussi qui montre que c'est des jeunes femmes fortes,
un désir très fort de,
et je pense que ça existe énormément, en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, ce désir d'apprendre, mais qui bien souvent est frustré justement par des tas d'autres
conditions, très matérielles.
C'est très matériel, et aussi quand la politique vient s'ajouter à tout ça, c'est vraiment très difficile.
Les études, c'est aussi au cœur de votre livre, de votre récit. Le désir d'apprendre, c'est ce qui met littéralement votre vie en mouvement. Dans choses qui arrivent, c'est hyper beau quand même que vous racontiez à quel point, le désir d'apprendre peut être dans un premier temps le prétexte absolu pour tout quitter, y compris avec ce que ça peut coûter.
Oui, alors c'est un petit peu c'est le prétexte absolu, puis c'est la raison, c'est la raison qu'on vous présente. Tu peux partir de ce lieu dans lequel tu es né et auquel tu dois tant, à condition que tu apprennes. Je pense que ce que j'ai essayé de traduire en prenant ma période estudiantine comme prétexte dans choses qui arrivent, c'est le fait que il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de raison suffisante au
partir.
Déracinement. Voilà, au fait de partir, au fait de quitter les siens à un âge si tendre, parce que 18 ans, c'est jeune, mais on s'en rend compte une fois qu'on arrive, parce que puisque c'est le destin de tout le monde, on se dit, oh, ça va. Et puis, ça me fait penser à une amie qui me disait dernièrement, je lui disais, j'ai retrouvé ma mère, et elle est très émotive, donc évidemment, elle a pleuré, c'était pendant mes études, ça faisait 5 ans, je crois, qu'on ne s'était pas vus. Et donc, cette amie me dit, mais non, ta maman n'est pas du tout émotive. Si j'avais des enfants et que je devais les voir tous les 5 ans, ce serait horrible, je pleurerais toute ma vie. Et c'est là que je me suis rendu compte que, et je pense qu'il y a une espèce de coque de protection qu'on se crée pendant les études, parce que si on y pense, eh bien on n'avance plus.
C'est invivable, quoi.
Voilà, on reste complètement paralysé dans l'injustice, parce que c'est une injustice avec laquelle on est obligé de composer, mais ça reste une injustice, et donc on reste complètement paralysé. Donc on est obligé de la minimiser, de dédramatiser, parfois de dénigrer un petit peu les personnes qui voient ça comme une injustice. On va les qualifier de trop émotives, trop sensibles, parce que ce serait trop difficile de regarder dans cette direction-là. Donc on préfère mettre ça de côté, mettre les sentiments de côté. Et c'est aussi ce que je voulais, que ce livre fasse ressortir. C'est la mise de côté des sentiments, la mise de côté de la sensibilité qui est reléguée au rang de sensiblerie. Et donc c'était de la faire revenir en disant...
Oui, parce que vous y allez, au contraire, en articulant votre récit avec des nœuds, où c'est comme si vraiment on vous voyait activé, en train de prendre chacun des nœuds et d'aller au plus profond, au cœur, encore une fois, des sentiments et de la vie. On va écouter l'auteur, metteur en scène, dramaturge et écrivain aussi, Wajdi Mouahad, parler d'exil et d'écriture en 2009 dans les entretiens à Voix Nue.
Il y a eu un moment où j'ai vu dans quoi on a été, ma famille, moi, mais pas seulement moi, mais les Libanais, et puis plus largement ce que c'est que de quitter son pays à cause d'un conflit ou d'une guerre. Bon. Puis après, il y a eu un déplacement à l'intérieur de cet exil. C'est-à-dire que je me suis exilé moi-même, là, par choix, de cette définition de l'exil, d'une définition trop sociale ou trop politique. Je m'en suis exilé, c'est-à-dire que je me suis déplacé. J'ai changé de pays à l'intérieur de l'exil pour arriver dans un territoire où le mot exil signifiait tout à coup autre chose, puisqu'il était lié à l'écriture, au fond. Puisque à partir du moment où on écrit, on affirme le dépaysement, on affirme l'arrachement. Et on se sait exilé à jamais dans l'écriture. Mais à ce moment-là, tout auteur est exilé pour moi.
2009, les entretiens à voix nue, la voix de Wajdi Mouahad, parlant de presque l'exil qui est pris dans le geste même d'écrire. J'ai présenté ce plateau en disant que à la fois votre livre Toufat Moutaré, on vient de l'entendre, mais aussi le vôtre Véronique Tadjo, étaient des romans du déplacement. Et c'est vrai que je crois qu'une des premières scènes, on est dans un bus, il y a vraiment quelque chose qui se déplace et de l'arrachement évidemment subi. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous avez entendu de Wajdi Mouahad?
Ah, j'aime beaucoup cet auteur, j'adore. Ce qu'il dit est vrai, absolument. L'écriture peut être un refuge, un autre territoire. Je suis oui et non, parce qu'on est toujours happé par l'extérieur. Mmh. Et justement, je pense que ce que les écrivains font, c'est qu'ils se mettent à l'écoute du monde. Et ils essaient parfois d'être comme disait Césaire, les voix de ceux qui n'ont pas de voix. Ouais. Et donc, oui, mais je me méfie un peu parce que j'ai un peu cette idée que l'artiste, l'écrivain est un citoyen comme un autre et donc fait partie de la cité, du monde. Et voilà, on lui demande de réagir. On peut pas se cacher derrière l'écriture.
Quand Flora arrive à Johannesburg, on peut parler d'un exil.
Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait il y a deux exils, parce que quand Yasmina qui est obligée de se sauver elle aussi, mais qui part dans le nord de la Côte d'Ivoire rejoindre sa famille, elle est quand même en exil. À partir du moment où elle a vécu un gros traumatisme, elle est exilée, elle est dans un pays qu'elle ne comprend plus. C'est une forme d'exil aussi. Et donc, Flora, elle va jusqu'en Afrique du Sud. Et je pense qu'elle se rend compte de la diversité de l'Afrique. Mmh. À ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est vraiment deux pays qui ont l'air tout à fait différents. Mais au fur et à mesure de sa vie à Johannesburg, elle voit tout à coup plein de similitudes, plein de choses. Elle se reconnaît finalement dans cette société et surtout dans cette jeunesse. Et dans ses espoirs.
Jusqu'à une rencontre, une belle rencontre, on dira pas plus loin. On va écouter la voix d'une autre autrice, Kaoutar Archi, et juste après, un extrait de votre texte, Toufat Moutaré.
C'est comme si finalement, vous couriez une course, mais que sans cesse la ligne d'arrivée était repoussée à plus loin. Et je crois que cette course est une course épuisante, c'est une course injuste, et c'est une course qui affecte beaucoup les existences. Je raconte des gens qui sont partis de chez eux et qui ont dû se reconstruire dès chez soi avec des formes d'adversité pesantes et persistantes. Il me semble que les adversités sont d'ordre multiple. Le caractère quasiment extraordinaire de cette adversité, c'est qu'elle touche à l'ordinaire. C'est-à-dire qu'elle touche au vécu quotidien, qu'il soit d'ordre administratif, qu'il soit évidemment d'ordre économique par rapport à la question du marché du travail, qui est un marché du travail où des formes de racialisation existent. Il fait l'objet aussi, ce vécu-là, de discrimination, il fait l'objet d'assignation, il fait l'objet finalement, s'il fallait le résumer, d'une forme d'inconfort construit dans lequel des personnes sont contraintes de trouver des repères qui sont ambivalents et qui sont complexes.
Dans mon inconscient, nourri à une collectivité non identifiée, la clandestinité était quelque chose d'éminemment masculin. Elle ne concerne pas les femmes et les enfants. Elle relève d'une responsabilité prise un jour de risquer sa vie, de tout quitter, non pas dans le but de revenir, mais dans celui de fonder autre chose ailleurs, fût-ce dans l'illégalité. Le mouvement et sa répression, la décision de s'enraciner dans une terre qui vous vomit, l'œil qui brille de défi, l'action malgré le monotage, marcher quand on vous entrave, tout cela me paraissait davantage ressembler aux hommes. D'ailleurs, ne dit-on pas plus souvent clandestin que clandestine ? Il me semble que réfugié s'accorde plus facilement au féminin, à un demandeur d'asile, une femme en difficulté. Le discours dans lequel j'ai baigné présente l'homme comme capable d'une clandestinité assumée. Il la porte en bandoulière, tandis que la femme serait celle qu'on secourt, celle que l'on doit aider. Une femme est censée rester, même là où on ne veut pas d'elle, tout en demandant de l'aide pour partir, généralement à un homme. Ce dernier est toujours le portail par lequel elle se sortira de toutes les difficultés. Aussi, éprouvais-je une gêne presque sale à choisir de rester là où certains me disaient que je n'étais pas à ma place. Je portais mon sac vide de papier comme un homme porte son orgueil, en bandoulière. J'y dissimulais mon déjeuner en me donnant des airs d'étudiante très occupée. Je me rendais à l'université sans jamais faire part de ma situation. J'évitais de tomber malade afin qu'on ne me demande pas où était ma carte vitale. Avais-je sécrété une hormone inédite durant toutes ces années ? Celle qui ordonnerait aux organes de ne pas défaillir, au porte-monnaie de toujours contenir un ticket de métro en quelques pièces, à l'estomac de taire ses élans. Dans mon pays d'origine, la gent masculine s'enorgueillait d'une maxime qui lui attribue deux poitrines. Le propre d'un homme, c'est son double torse. Deux cœurs, un pour compenser la sensibilité de l'autre. Une forteresse à l'épreuve de toutes les invasions émotionnelles. Un extrait de votre texte, Toufat Moutaré, chose qui arrive, qui fait écho à l'archive de l'autrice Kauter Archi en 2021, où elle expose l'adversité, l'épuisement de la condition de personnes exilées arrivant en France et faisant notamment face à une violence et à une usure administrative, chose qui est vécue et que vous racontez dans Choses qui arrivent. Mais ici, vous précisez encore quelque chose qui est que vous êtes une femme et que pour vous, ce qui se passait sur le sol français et l'absence de papier était redoublé de votre genre.
Tout à fait. En fait, dans Choses qui arrivent, bon, j'ai été très émue d'entendre cet extrait, mais dans Choses qui arrivent, je me présente comme étant une voyageuse, parce que j'ai été une enfant voyageuse, prise au piège dans un corps d'exilé. Je ne m'étais jamais perçue comme exilée.
Les mots, quoi.
Jusqu'à ce que cela arrive. Prise au piège dans une situation dans laquelle on va la qualifier de clandestine, de personne en situation irrégulière, etc. De sans-papiers, j'ai récemment eu une réflexion, émis une réflexion par rapport à cela, parce que le terme sans-papiers, quelqu'un qui est sans-papiers ici, en France, c'est quelqu'un qui a des papiers dans un autre pays. Et en fait, moi, j'avais cette identité-là qui était bien ancrée. Je savais que j'existais quelque part, que j'avais cette dignité-là. Et en fait, c'est comme si on arrive dans un système dans lequel on essaye en permanence de vous renvoyer à cela, de vous renvoyer au fait que vous n'êtes pas quelqu'un, que vous n'existez pas. Vous êtes une sorte de substance flottante comme ça. Et je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'imaginer ce que ce serait si je pensais que j'étais juste un être sans genre, sans statut, qui était prise au piège dans un corps de femme et dans un corps de... Enfin, dans la perception que l'on a de ce que c'est qu'une femme et dans la perception que l'on a de ce que c'est qu'une personne qui n'a pas de papier. Qu'est-ce que ça fait si je suis ailleurs, hors de tout cela, et que je suis quand même prise au piège là-dedans?
Et ce qui est vraiment très puissant aussi dans le texte, dans la manière dont vous en parlez, c'est que ce piège, c'est notamment un piège de langage. C'est-à-dire que c'est aussi les mots qui sont en permanence répétés. Certes, ce sont des guichets administratifs, certes, c'est se lever à l'aube pour aller à la préfecture, c'est prier pour que la famille ou l'individu qui est devant soi soit pas le dernier, qu'on doive rentrer chez nous sans avoir pu mener à bien cette demande. Mais il y a aussi, en effet, comment on vit à l'intérieur des mots qui, d'un seul coup, deviennent des prisons, quoi.
Oui, le premier pays, pour moi, c'est le langage, oui, tout à fait.
On écoute un extrait de votre texte, Véronique Tadjou. On est plutôt à la fin, dans une très belle remise des diplômes, peut-être pour faire entendre la manière dont vous tirez ce texte vers un au-delà du futur, quoi. Flora faisait partie de cette génération qui refusait de se soumettre à une existence cas un cas, qui voulait prendre la vie à bras-le-corps, tordre le cou au destin, retrouver la liberté tant recherchée, refaire le monde de fond en comble, rembobiner le fil du temps. Ces jeunes-là n'étaient pas des figurants. Animés d'une force qui exigeait d'être entendue, ils refusaient l'accablement d'une interminable attente. Ils vivaient avec des technologies puissantes qui les tiraillaient entre mille directions opposées. Tout ce qui brille n'est pas or. Ils étaient conscients que leur avenir se trouvait encore hors de portée et que c'était à eux de faire le premier pas. Ils allaient devoir recoller les pots cassés, balayer la maison, dénicher l'espoir. Le monde traînait les pieds alors qu'il ne restait plus beaucoup de temps pour agir. Une jeunesse qui n'acceptait pas un avenir au rabais, abîmée sous toutes les latitudes, qui se révoltait quand on jouait à la sourde oreille. Colère naturelle comme un réflexe, demander des comptes, briser l'impasse. Il y a des rages qu'on ne peut canaliser d'autre pas. Ce n'était pas ainsi que les choses auraient dû se passer. Avant, les aînés traçaient les sillons et montraient le chemin. Mais voilà que le ciel s'était assombri et que la terre fondait sous la chaleur. Les gardiens d'hier s'étaient perdus dans un labyrinthe. Inondations, sécheresses, incendies, fléaux. Résister, rester vivant. Ces jeunes-là ne voulaient plus du mensonge et des mauvaises allégeances. Ils faisaient la chasse au mépris et aux humiliations. Le passé était enseveli. Ils avaient grandi trop vite, leur colère aussi. Affrontant la vie les mains nues, ils s'attelaient à changer un système qui craquait à toutes les encoignures. Mais l'espoir ne s'offrait pas facilement. Ils s'évadaient, revenaient, repartaient, s'acheminaient vers d'autres rendez-vous puis acceptaient de rester. C'était ce qui les animait. C'était aussi ce qui risquait de ralentir leurs pas s'ils rêvaient trop fort et mettaient la charrue devant les bœufs. Véronique Tadjo, vous décidez de ne pas mettre de point final à ce roman qui mêle les destins de ces deux étudiantes, Flora et Yasmina, entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, et de le terminer dans un élan très générationnel des jeunes gens qui sont explorateurs de nouveaux territoires, qui ont assez de fougue pour décrocher le soleil. Il y a des moments d'amour, de tendresse, d'art, de lumière qui arrivent dans ce deuxième temps quand même. On a commencé finalement la conversation en me disant... que ce qui vous intéressait l'une et l'autre, c'était ce qui continue de vivre quand il y a la violence partout. La littérature, c'est un endroit pour le réaffirmer, cet espoir-là, cet espoir difficile mais tenace.
Oui, je crois. Oui, je crois que c'est une des belles choses de la littérature, c'est qu'on peut encore imaginer un monde. Mais en ce qui concerne la jeunesse, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mm. On le voit un peu partout, pas seulement en Afrique, mais en Europe, aux États-Unis. On voit qu'il y a une jeunesse qui veut autre chose et donc qui est un fer de lance en quelque sorte. Je ne dis pas que ce n'est pas une... Je ne veux pas idéaliser la jeunesse, parce que bien sûr, il y a différents courants, il y a des tas de choses, mais il y a quand même, justement, on parlait tout à l'heure d'innocence, et je pense que c'est à la fois, l'innocence, c'est à la fois un défaut et une qualité. Parce qu'il faut savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, s'émerveiller. Avoir cette idée que on peut faire mieux, qu'il y a autre chose. Et que ça vaut encore le coup de se battre pour cette autre chose.
Je voudrais qu'on écoute pour terminer la voice note de Céline. La question de Céline qui vous est adressée, Toufat Mountara, elle a lu votre livre et ça l'a renvoyée à sa propre histoire.
Bonjour le Book Club, bonjour Toufat Mountara. J'ai lu Chose qui arrive. Dans votre livre, vous dites « Chacun de mes pas a sa raison d'exister. Il ne sera pas dit que mes enfants porteront mon poids dans la gorge. » J'ai naturellement pensé à ce grand-père qui était lui aussi un émigré, dont je ne sais rien de l'histoire, le sujet étant même un peu tabou dans ma famille, comme s'il avait fallu gommer tout ce qui aurait pu entraver son intégration ou l'avenir de ses enfants. Aujourd'hui, ma fille fait le chemin inverse en se réappropriant une langue, celle de mon grand-père, et en s'intéressant à l'histoire de cette région du monde. Cette fidélité aux origines, elle parcourt votre roman dans la transmission de rituels, le bout de pain trempé dans le thé, mais aussi l'obligation de réussite. Je voulais vous demander, Comment on fait pour se débarrasser de la culpabilité? Est-ce que ça finit par se dissoudre avec le temps? Qu'est-ce qu'on est censé en faire? Merci pour votre réponse.
On pourrait presque repartir pour une heure, vu l'ampleur de la question. Merci beaucoup, Céline, pour votre lecture. Peut-être quelques éléments de réponse?
Je pense qu'elle s'en va pièce par pièce, petit morceau par tout petit morceau.
Petit morceau de pain trempé dans le thé, petit morceau.
Voilà, petit pain par petit pain, on ne peut pas l'arracher d'un coup. C'est une grande question que j'explore beaucoup.
Ouais.
Je pense qu'à côté de la culpabilité, il y a la loyauté. Enfin, je pense que c'est comme un carrefour. Il y a la loyauté d'un côté, il y a la responsabilité de l'autre. Et que donc, c'est tout le temps une négociation avec soi. Est-ce qu'on choisit la loyauté malgré tout, quoi qu'il arrive, coûte que coûte? Ou alors, est-ce qu'on va plutôt choisir la responsabilité? C'est-à-dire que quel que soit le choix que l'on va faire, qu'il plaise ou pas, on va en assumer toutes les conséquences. Mmh. Et parfois accepter que parfois il nous arrive de revenir en arrière sans l'avoir voulu, de nous trahir un petit peu, mais c'est normal, c'est ce comme un enfant qui apprend à marcher. Ce sont des choses qui arrivent.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On a dit tout à l'heure, Véronique Tadjeu, que vous écriviez aussi pour les enfants, que vous illustriez même proprement vos livres. Dans le Book Club, chaque semaine, on s'intéresse à la littérature jeunesse avec vous, Raphaël Bott. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marie.
Vous aviez énormément aimé un roman pour les jeunes adolescents qui s'appelait Les Enfants de Chatham, du romancier belge Thomas Lavachéry. Il vient de sortir en bande dessinée. Et ces adaptations du roman jeunesse donc à la bande dessinée sont de plus en plus nombreuses. Pour nous, aujourd'hui, c'est l'occasion de se demander dans quelle mesure chaque médium attire les jeunes lecteurs dans un univers nouveau ou pas.
Et allons-y déjà, Marie, dans cet univers. L'histoire racontée par Thomas Lavachéry, qui est un romancier jeunesse passionnant, talentueux. J'en profite pour vous conseiller Un dément parmi nous. C'est son dernier roman. Il est sorti en avril dernier. Alors là, celui dont on parle aujourd'hui, il se déroule à l'automne 1920, direction le village de Chatham, dans l'Alabama, aux États-Unis. Nous sommes en pleine récession économique et les temps sont durs. Mais dans cette bourgade, les difficultés ne troublent pas la douceur de vivre. Les uns et les autres s'entraident. La vie est simple et on attend des jours meilleurs. Le romancier ausculte les interactions entre les gamins, leurs jeux, leurs combines. Sam et Alice ne quittent pas des yeux Stumpy Bannon, qui est un ermite du village. Pour comprendre, ils veulent savoir pourquoi il disparaît comme ça une partie de l'année. Et puis, il y a surtout cette institutrice, qui est un personnage lumineux dans ce récit. Elle a une pipe toujours dans la bouche, qui n'est jamais allumée. Et elle enseigne les amendements féministes à ses élèves. Elle oublie jamais d'aider les anciens quand une tempête de neige paralyse tout. Elle s'attache bien plus au cancre de sa classe qu'aux autres. Ce n'est pas un hasard si cette Mrs. Ruffo découvre un matin un enfant affamé déposé sur le pas de sa porte.
Voilà, vous avez bien placé le décor. On est plongé à Chatham et au milieu de ses habitants, Raphaël.
Et on a envie de savoir d'où vient cet enfant abandonné, ce que fait cet ermite, et puis comment évolue l'amitié entre Alice et Sam. On sent la poussière des chemins de terre, on entend les portes des maisons claquer, on voit le vélo de Mrs. Ruffo filer jusqu'à l'école, on écoute les bribes des conversations des anciens. La coexistence des enfants et des adultes est équilibrée. Les personnages secondaires existent et apportent de la profondeur. Certains sont atypiques, d'autres truculents et tous terriblement attachants.
Plusieurs intrigues se croisent. Est-ce que l'adaptation en bande dessinée, ça rend l'ensemble plus accessible à des enfants?
Eh bien, peut-être Marie, ou peut-être pas. En fait, c'est ce qu'on serait tenté de se demander quand on s'intéresse à une adaptation BD, qui plus est en littérature jeunesse. Mais en fait, cette adaptation montre à quel point la comparaison ne se situe pas vraiment à cet endroit. Elle atteste surtout d'un réel aboutissement de la reconnaissance de la littérature jeunesse et aussi le signe d'une maturité de la bande dessinée jeunesse. Alors, si on reprend le roman, le style, la langue impeccable de Thomas Lavachéry traduisait les nuances des caractères, l'atmosphère si vivante, si cocasse de ce lieu. Et si on passe à la bande dessinée, dont le scénario est d'ailleurs signé par le romancier, eh bien là, le dessin de Cyril Pomès, il apporte effectivement une grande lisibilité, mais pas une simplification. Il y a un travail sur les ellipses et le dessin raconte. Le trait est souple, les expressions des visages tirent parfois vers le cartoonesque. Les décors sont proches du croquis et créent une réelle proximité. C'est complètement immersif, le lecteur est à Chatham. Puis il y a autre chose qui est assez magique, je trouve, c'est le silence de certaines cases. On pourrait imaginer que l'adaptation réussie d'un roman soit peut-être bavarde, des bulles avec des précisions pour rien rater. Et bien pas du tout. Là encore, le style se traduit par des cases muettes, sans texte. La simple récurrence d'un crapaud et de son quoi replace le lecteur comme un observateur.
Cette bande dessinée n'est donc pas une sorte de marche-pied ou retour vers le roman?
Non, pas du tout. Peut-être qu'elle permettra de prolonger un univers qu'on aura aimé, ou qui donnera envie de le lire, ça c'est super. Mais c'est avant tout une belle bande dessinée à la gamme de couleurs fines et évocatrices, à la structure solide. J'avais énormément aimé Les Enfants de Chatham, le roman, et sa singularité dans tout ce qui... Il avait vraiment une singularité dans tout ce qui sort en littérature. On plongeait dans une atmosphère, et je trouve que la bande dessinée, elle amène encore ailleurs, elle met l'accent sur d'autres points, autrement. Elle anime les personnages, elle donne autant envie que le roman de les retrouver. Donc en un mot, Monsieur Lavacherie, il ne manque plus qu'une suite.
Les Enfants de Chatham, c'est un roman et une bande dessinée donc, accessible plutôt autour de 11 ans. Ils sont publiés par l'édition L'École des Loisirs et Rue de Sèvres. Rue de Sèvres qui appartient à l'École des Loisirs. Et une partie du catalogue est consacrée à ces adaptations de romans jeunesse de la maison mère. J'ai dit les choses en bon ordre?
Exactement.
On retrouve toutes ces informations sur le site du Book Club franceculture.fr et on vous retrouve vous la semaine prochaine. Merci Raphaël Bott. Dans le Book Club, on joue au grand jeu des pages musicales en fin d'émission. On propose à nos auditeurs et auditrices de jouer avec nous. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous êtes en train de lire un livre et que vous voyez apparaître l'évocation d'un air musical, quel qu'il soit et sous quelque forme que ce soit, vous faites une photo ou bien vous retranscrivez le passage et vous nous l'envoyez par mail lebookclub@radiofrance.com ou via le compte Instagram du Book Club où Alexandre continue comme ça d'amasser vos propositions de pages musicales et de nous les transmettre. Aujourd'hui, c'est Manu qui joue avec nous via le mail du Book Club. Il ou elle, peut-être il, a choisi l'extrait d'un livre qui s'appelle « Les Amis de Constantine » paru en 2023 et signé Chagou Haussmann via l'Armand. J'espère que je dis tout bien parce qu'il y a plein de titres et plein d'auteurs. En tout cas, on se quitte avec un extrait de ce roman. Fatma est allée déposer son sac au pied de la machine à coudre, puis s'est dirigée vers la cuisine, le café, les petits gâteaux. « Toujours tu mets la même musique ? T'aimes bien, hein ? Moi aussi j'aime bien cette musique. Pourtant je connais pas. C'est pas une musique de chez nous. C'est qui fait cette musique ? Alors là tu me fais vraiment plaisir. Celui qui l'a composée s'appelle Jean-Sébastien Bach. C'est un musicien né en Allemagne, mais il y a longtemps, très longtemps. Et ça s'appelle « Les suites pour violoncelle ». Tu sais ce que c'est un violoncelle ? C'est presque comme un très gros oud. Tu dis qu'il s'appelle Bach ? Comme la carrière ? Là où Ali il travaillait ? Oui, c'est le même nom. Mais la musique de ce Bach n'a rien à voir avec la carrière. C'est le même nom, c'est tout. Dans la carrière, on extrait de la roche avec des outils et de la dynamite. Et je crois que cette musique, elle extrait de nous des grosses roches aussi. Des roches qui nous étouffent, qui nous dévorent. Des souvenirs tristes, des deuils, des cassures, des rêves morts. Pas avec de la dynamite, avec un violoncelle. Alors c'est pour ça, toi et moi, cette musique, elle nous parle ? Je comprends pas tout, mais j'aime bien. Merci beaucoup Véronique Tadjo d'avoir été avec nous au Book Club de France Culture pour parler de votre livre Je remercie la nuit, paru aux éditions Mémoires d'Encrier. Merci beaucoup Toufat Ntaré d'avoir été avec nous pour parler de votre livre Chose qui arrive, paru aux éditions Bayard. Vous êtes toutes les deux les invitées du Salon du Livre Africain de Paris qui aura lieu les 21 et 22 mars. On peut venir vous voir avec 400 autres auteurs, ou 398 du coup, auteurs et autrices pour des rencontres, des conférences, des signatures. Au son aujourd'hui, c'était Alexandre Dang à la réalisation. Vivien Demeyer, un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, en particulier à Julie Gastal aujourd'hui.